France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous accueillons des enfants qui relèvent de la psychiatrie et nous sommes démunis face à ces pathologies. Nous sommes des familles d'accueil, des familles lambda. Voilà, nous ne sommes pas des professionnels de la santé en tant que tels.
On n'est pas un hôtel et un restaurant. On est des assistantes familiales, des travailleurs sociaux. On est là pour aider l'enfant. Si on arrive juste à le loger, à le nourrir, quel est l'intérêt de notre travail?
Qu'est-ce qu'on veut de la protection de l'enfance? Si on veut vraiment un vrai projet éducatif, si on veut aider ces enfants, ben il faut mettre les moyens.
Il est clair que nous devons faire mieux, reconnaît Édouard Philippe. Alors qu'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance vient seulement d'être nommé, le Premier ministre qualifie cette politique publique d'absolument essentielle et il promet de renforcer les moyens qui lui sont consacrés. Lundi, il présentera avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, les axes de la stratégie nationale pour la protection de l'enfance et de l'adolescence, plusieurs fois reportée. Il était temps, lui répondent les associations de protection de l'enfant. Un documentaire diffusé la semaine dernière sur France 3 a mis en évidence des dysfonctionnements majeurs au sein de l'aide sociale à l'enfance. Des enfants frappés par des éducateurs, des adolescents livrés à eux-mêmes, de jeunes adultes réduits à la mendicité, même s'il s'agit de cas particuliers, parmi les quelques 340 000 mineurs accompagnés par l'ASE, le tableau n'est pas flatteur. Et aujourd'hui, plusieurs députés La République En Marche réclament une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance. Le système semble saturé, dans l'incapacité d'offrir à tous les enfants en souffrance une place adaptée à leurs besoins. Parmi les difficultés, la pénurie de familles d'accueil. Il y avait 50 000 assistants familiaux en 2012. Ils sont aujourd'hui 45 000 alors que le nombre d'enfants placés augmente. Or, la famille d'accueil est le mode d'hébergement le plus apprécié, en particulier pour les jeunes enfants délaissés ou maltraités par leurs parents. Pourquoi des familles d'accueil baissent-elles les bras? Pourquoi les vocations se font-elles plus rares? Famille d'accueil, une vocation en crise. C'est un reportage signé Lola Fourmi. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Philippe Fabry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes formateur à l'IRTS, l'Institut Régional du Travail Social, doctorant au Centre de Recherche en Éducation et en Formation et auteur d'une thèse sur le placement familial. Vous allez pouvoir commenter et compléter le reportage de Lola Fourmi. Lola, environ 83 000 enfants sont hébergés en famille d'accueil. C'est le principal mode d'hébergement des enfants placés en France.
Oui, les familles d'accueil sont un maillon essentiel de la chaîne de la protection de l'enfance, des professionnels qui ont une lourde responsabilité, un métier qui s'est professionnalisé mais qui reste particulier puisqu'il ne requiert aucun diplôme préalable à son exercice. Il y a seulement un stage préparatoire de 60 heures avant l'accueil d'un premier enfant, puis une formation de 240 heures sur les 3 ans qui suivent. Ces assistants familiaux, comme on les appelle maintenant, on ne les entend pas souvent. Difficile en effet d'aller manifester avec 3 enfants placés. Ils sont soumis aussi à un droit de réserve qui prend différentes formes selon l'employeur. Mais aujourd'hui, s'ils ont accepté de se confier, c'est à la fois pour partager un métier passionnant, mais aussi pour alerter sur certains dysfonctionnements.
Nous allons donc entendre plusieurs témoignages d'assistantes familiales. Première étape de votre reportage, Lola, nous partons en Haute-Garonne, près de Toulouse.
Alors attends, si on y mettait les mains comme
mais
ça.
Mais si, parce que hop, on a sur le guidon.
Les mains sur le guidon.
Je m'appelle Nathalie, je suis assistante familiale depuis 6 ans maintenant. Alors pourquoi? Alors c'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. J'avais ma meilleure amie qui était assistante familiale et je la voyais travailler avec ses enfants qu'elle accueillait. Ça, quelque chose qui m'a toujours donné envie de le faire. Bon, mon parcours après a fait que dans ma vie que j'ai pu me poser et prendre le temps de réfléchir et me dire ben je me lance. Donc je me suis lancée dans ce vaste projet et ça a abouti en 2012. Voilà, où j'ai obtenu mon agrément. Alors là, j'ai trois accueils. J'ai deux garçons, un de 6 ans et demi, 6 ans, et le petit qui est donc du coup arrivé au mois d'août et qui a 4 ans et demi. J'ai le petit dernier qui a des troubles à spectre autistique. Et bon, j'en ai un qui, on ne peut pas appeler ça vraiment des troubles, mais au niveau scolaire, c'est compliqué pour lui. Donc, il a, au niveau de la concentration, de l'attention, il a des prises en charge au CMP. Et ensuite, le plus grand, il y a des choses qui s'ouvrent maintenant. On s'aperçoit que, donc, effectivement, c'est 3 enfants, 3 placements avec des soucis et des problèmes qui sortent et qui se greffent là petit à petit en grandissant.
On mélange.
Oui. On va mélanger. Voilà, un petit peu le quotidien quand on a des petits, hein?
Oui.
Comme ce jeune homme.
Oui.
Alors, est-ce que ça fond? Ouais, ça a fondu un peu. Allez, goûte. On va pas tout faire fondre. Vas-y, goûte.
C'est bon.
Alors, une journée type, quand c'est les vacances, eh ben, on fait un petit peu relâche. Après, quand il y a l'école, eh ben, c'est un réveil comme n'importe quelle famille. Hein, le réveil, le petit déjeuner, on se prépare pour partir à l'école. Ensuite, en fonction des enfants, il y a des prises en charge. Donc, je suis amenée à les amener dans les CMPP, chez le médecin, quand il y a visite chez le médecin. Donc ça, c'est du quotidien. Après, on peut avoir des réunions et des bilans à faire avec justement la psychologue du service qui veut nous rencontrer, la référente qui ou passe à la maison ou on est obligé de se déplacer. C'est un métier à temps plein et on n'a pas trop le temps de se dire, voilà, il nous tarde la fin de la journée quand ils sont couchés pour souffler et se dire, bon, voilà, on a fait une journée de travail parce que c'est du travail à temps complet. Ah, il fait ratatouille, il fait la soupe. C'est pas un passe-temps où on s'amuse. On pourrait croire, parce qu'on est à la maison, que justement, on a du temps devant nous. Mais il y a des journées où on n'est pas là de la journée à la maison. Et c'est un vrai métier à temps complet, surtout quand on a plusieurs agréments et plusieurs enfants à accueillir.
Et est-ce qu'il y a des aspects plus difficiles auxquels on ne pense pas avant d'y être confronté?
Oui, notamment l'attachement que l'on peut avoir, réciproquement, l'enfant envers l'assistante familiale et l'assistante familiale envers l'enfant. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas, quand on n'est pas dans le bain, à mesurer. C'est compliqué.
Et du coup, est-ce que ça, les enfants le comprennent?
Au niveau de l'attachement, le comprendre, c'est difficile. D'autant plus que moi, ils sont encore petits, donc c'est compliqué de leur expliquer qu'ils ont une maman, qu'elle est présente plus ou moins, mais qu'il y a quand même une maman, que moi je ne suis pas là pour la remplacer. Pour certains, ça peut être difficile à comprendre et c'est souvent difficile à accepter. Il y a du conflit de loyauté parce que ben il faut être bien et chez maman et pas trop bien en famille d'accueil, ou si je suis trop bien en famille d'accueil, ben ça va faire de la peine à maman. Donc c'est pour eux, c'est une situation qui est très difficile et compliquée à gérer. C'est un travail à faire au quotidien et à se dire, ben oui, mais il n'est pas à nous, il grandit d'une certaine façon, avec peut-être un peu nos valeurs qu'on lui montre, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même une famille et que cette famille, elle est là, même si elle n'existe pas à temps complet auprès de lui, mais elle est quand même là et c'est... L'attachement, il faut qu'il y soit pour qu'il puisse grandir et s'épanouir, il faut qu'il y soit, mais il faut en aucun cas essayer de récupérer cette place de maman qui n'est pas la mienne. Je suis une maman de cœur, je peux y être une maman de cœur, mais je ne suis pas sa maman biologique, je ne le serai jamais.
Tu parles à moi là ? C'est vrai que je te parlais à toi ? C'est vrai ?
Et est-ce que ça vaut le coup ?
Oui. Oui, ça vaut le coup parce qu'on reçoit beaucoup. C'est un parcours particulier, c'est un métier atypique, mais on reçoit tellement de ces enfants qu'on accueille que oui, ça valait le coup de se décarcasser et d'aller jusqu'au bout.
Donc tu t'es super bien débrouillée pour le construire. Hein.
Nathalie a 35 jours de congé par an. Parfois, elle part en vacances avec les enfants qui lui sont confiés. Sinon, ils vont dans une famille d'accueil relais. En l'occurrence, chez Flavienne Mina. L'assistante familiale vit à une dizaine de kilomètres de là.
Il y a une salle de jeu qui sert essentiellement l'hiver, quand il pleut. Voilà. Alors ça, c'est une chambre d'ado. C'est la grande que j'ai depuis 10 ans. Donc c'est elle qui a fait la déco de sa chambre.
Parce qu'il y en a une qui vient en relais depuis 10 ans.
Oui. Elle vient de faire 13 ans et je l'ai depuis qu'elle a 2 ans. Donc même dans du relais, on peut être dans quelque chose de pérenne, quoi. Voilà. Voilà. Et encore une chambre. Donc des petits lits, des grands lits pour être prêt à accueillir quel que soit l'âge. Donc ça, c'est la chambre des plus petits avec le poster du Roi Lion au mur.
Ça veut dire qu'il faut être prêt à toute éventualité?
Ah oui, tout le temps. Tout le temps, il faut être toujours prêt. C'est une des qualités des assistants familiaux. Il faut s'adapter en permanence.
Ça arrive, les coups de fil comme ça, la veille pour le lendemain, tiens on...
Ah mais c'est pire, hein. C'est pas la veille pour le lendemain. C'est le jour même pour 2 heures après, quoi. Ça arrive, oui. Voilà, donc il faut être prêt à tout, voilà. D'où ben, toujours un petit lit de montée, un lit pour évolutif pour un 3-6 ans, un lit normal, voilà. Au niveau des fringues aussi, j'ai des boîtes de fringues au grenier, toutes les tailles. Parce qu'il peut arriver que les enfants, ils arrivent sans rien, quoi. Donc, il faut commencer à les habiller les 2-3 premiers jours, le temps d'aller chercher, d'aller acheter ce qu'il faut, quoi.
C'est vraiment une vocation?
Ah oui, je pense que c'est avant tout, c'est une vocation, oui, avant d'être un job. Voilà, et une salle de bain, bien sûr, parce qu'on se lave, quand même. Une salle de bain, voilà, avec les porte-manteaux, avec les noms de chacun. Et les peignoirs de couleur. Il y a beaucoup de brossades, vu qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Et donc, ceux qui viennent tous les 15 jours, j'ai des fringues qui sont là en permanence, la fringue, le pyjama, de rechange. Comme ça, il n'y a pas besoin de transporter des sacs. Voilà, ils ne se baladent pas avec des sacs. Ils arrivent, les mettent dans les poches et ils repartent les mains dans les poches. Quoi. Donc, ça, c'est un système qu'on a mis en place avec les collègues pour éviter voilà, de trimballer des sacs et d'avoir l'impression d'être tout le temps dans des valises. Quoi. Voilà.
Voilà, voilà. Après plusieurs années de pratique, Flaviane Mina a choisi de ne faire que du relais pour pouvoir s'investir davantage dans la lutte pour les droits des assistants familiaux. Elle est notamment vice-présidente de leur fédération nationale et présidente de l'association des familles d'accueil en Haute-Garonne, un département qui en compte 480, mais ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins.
Actuellement, sur la Haute-Garonne, au dernier pointage, il y avait 70 situations où le juge avait ordonné un placement et où les enfants étaient encore au domicile parce qu'on ne trouvait pas de place, hein, ni en institution, ni en famille d'accueil. Ce qui fait que souvent, les enfants, ce qui arrive, ils vont être placés par défaut, c'est-à-dire pas par rapport au projet. On va dire, par exemple, le projet, c'est une famille d'accueil. On n'en trouve pas, ou alors beaucoup trop loin, et c'est trop compliqué par rapport à ce qu'on veut faire dans le projet de l'enfant. Donc, du coup, l'enfant va être placé en institution. Donc, on n'est plus dans le projet, entre guillemets, idéal de l'enfant, quoi. D'ailleurs, il y a ça aussi, on peut parler du projet de l'enfant, ouais. Le PPE, le projet personnalisé de l'enfant. C'est quelque chose qui a été inscrit et mis bien en avant dans la loi de 2016 et où les départements ont quelques difficultés à mettre en place. C'est-à-dire que le projet de l'enfant, ça, normalement, ça doit indiquer qui fait quoi autour de l'enfant, quels sont les objectifs du placement. Bon, après, ça a évolué au fur et à mesure de la situation, mais bon, poser un peu à plat les objectifs, et les départements ont beaucoup de difficultés à le mettre en place. Donc, à Haute-Garonne, il existe, mais il n'est pas forcément appliqué, mis en place. Et normalement, là, dans les années à venir en Haute-Garonne, il y a des choses qui doivent se mettre en place autour du PPE. C'est-à-dire, avant l'accueil de l'enfant ou dans les 3 premiers mois de l'accueil de l'enfant, le PPE doit être mis en place. Il prévoit de mettre en place une réunion avec tous les gens qui gravitent autour de l'enfant, y compris l'assistant familial. Donc, l'assistant familial va être à l'élaboration du PPE, alors qu'actuellement, on a été juste informé. Et quand on était informé, donc là, à force de faire du lobbying, on y est arrivé quand même, l'assistant familial va être à l'élaboration du PPE et va être à la signature du PPE avec les parents. Donc, ce qui est énorme. On attend de voir comment ça va se passer. Ça, c'est le projet. Ils nous l'ont sorti il y a 15 jours. Hein, donc, c'est tout neuf. Et ensuite, une fois par an, donc, ce PPE sera revu et modifié en fonction de l'évolution de la situation.
Ça veut dire que jusqu'ici, l'assistant familial n'était pas impliqué dans le projet éducatif de l'enfant placé?
Non, pas en Haute-Garonne. Il était destinataire, informé, voilà. Mais il n'était pas impliqué. Alors que c'est quand même la personne qui est au quotidien avec l'enfant, quoi. Et actuellement, effectivement, il y a une diminution du nombre de familles d'accueil. Alors peut-être, est-ce que c'est par manque d'attraction du métier? Parce que effectivement, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande un investissement de la famille. C'est un choix de vie. et des situations d'enfants qui sont de plus en plus difficiles, puisqu'il y a quand même aussi une politique de prévention qui est quasiment inexistante maintenant en France. Donc les enfants nous arrivent vraiment très très abîmés. C'est pas une simple carence éducative ou des manquements éducatifs comme ça pouvait l'être avant. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la protection de l'enfance. J'ai vu les situations d'enfants quand même bien évoluer, quoi. Donc, l'assistante familiale a besoin de souffler par moment. Et ça, je ne sais pas si nos dirigeants en ont conscience.
Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. Probablement demain. Vous seriez dispo ?
En décembre dernier, le film Pupille est venu dépoussiérer un peu l'image véhiculée notamment par des séries télé comme Famille d'accueil. L'acteur Gilles Lelouch y incarne un assistant familial à qui on confie un bébé abandonné en attendant qu'il soit adopté.
On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. Je dis non, parce que je crois que j'ai envie d'arrêter.
Il y a quel âge ?
Il y a un jour.
Et en effet, les familles d'accueil ont beaucoup évolué. Depuis 1977, elles sont salariées et bénéficient d'un statut. Statut réformé ensuite en 92, en 2005, puis en 2016. Elles doivent notamment suivre une formation et peuvent désormais passer un diplôme d'État. Mais la profession reste exposée, notamment parce que les assistantes familiales peuvent être accusées de maltraitance ou d'abus sexuels, sans que cela ne soit toujours vérifié. Elles reçoivent aussi de plus en plus d'enfants atteints de troubles. Michèle Babin, la présidente de la Fédération nationale des assistants familiaux, a écrit au gouvernement pour alerter sur cette situation.
Alors, nous accueillons des enfants qui relèvent de la psychiatrie. Ils ont des traitements lourds et nous sommes démunis face à ces pathologies. Ils peuvent devenir très très agressifs et on ne sait pas toujours comment faire. On peut aussi accueillir des jeunes qui sont suicidaires. Et comment se comporter face à ces jeunes-là ? Voilà, nous ne sommes pas des professionnels de la santé en tant que tels. Nous sommes des familles d'accueil, des familles lambda. Nous avons nos conjoints, nos propres enfants, voire d'autres enfants aussi accueillis. Et on les met aussi en difficulté dès lors que nous accueillons ces jeunes avec ces troubles. Et le problème, c'est qu'il y a un manque de place au sein des institutions, hein, notamment des hôpitaux psychiatriques, parce qu'il y a malheureusement de plus en plus de cas. Alors pourquoi ça, c'est le mystère, parce que nous ne sommes pas dans le domaine médical. Et comme il y a un manque de place, on demande aux familles d'accueil de les prendre en charge. Donc il y a un manque criant d'unités de soins et de centres adaptés pour ces jeunes-là.
Qu'est-ce que vous avez écrit du coup dans cette lettre à Emmanuel Macron ?
Nous avons demandé une audience déjà, on a relevé toutes ces problématiques et notamment celle aussi de notre statut par rapport aussi au fait que nous n'avons pas la présomption d'innocence dès lors qu'il y a un signalement. Parce qu'il faut savoir que dès lors qu'il y a un signalement, nous sommes suspendus durant 4 mois de nos agréments et l'enquête pénale n'a pas le temps suffisant pour justement diligenter l'enquête. Donc systématiquement, il y a un retrait de l'agrément. Nous sommes licenciés de fait parce qu'on ne peut plus travailler. Et puis ça fait un coup au moral aussi parce que bon, être accusé justement comme ça, quand on sait qu'on est innocent, c'est très très dur. Bon, il peut y avoir aussi des cas avérés, hein, ça existe, hein, faut pas se voiler la face. Mais dans la grande majorité des cas, ça se termine par un non-lieu ou un classement sans suite.
Il y a une réforme en 2016,
oui,
qui place l'intérêt de l'enfant au centre de la protection de l'enfance. On a l'impression que c'est parfois encore un peu compliqué et que la parole des assistants familiaux qui vivent avec les enfants au quotidien n'est pas toujours écoutée et que la parole du parent biologique est parfois encore privilégiée. Est-ce que vous le ressentez comme ça ?
Nous le ressentons toujours comme ça parce que, comment dirais-je, il faut que l'ensemble des travailleurs sociaux qui travaillent autour de l'enfant aient la même formation. C'est-à-dire prioriser l'intérêt de l'enfant quand même. Quand l'enfant veut faire une certaine formation que le parent ne veut pas, quand l'enfant veut être hébergé chez un copain un soir parce qu'il y a un anniversaire, le parent ne veut pas, quand il y a une sortie scolaire, le parent ne veut pas, voilà. Il faut toujours attendre cette autorisation parentale, c'est sur les actes usuels en fait. C'est quand même dommage qu'à notre époque, quand on emmène des enfants aux urgences, il faut l'autorisation parentale pour passer une radio. Mais parfois, c'est très compliqué, parce que quand il y a des parents qui sont en état d'ébriété, ils ne sont pas en mesure de donner leur accord. Il faut pouvoir les joindre. Alors quand on est face à ces situations, il faut appeler le procureur et c'est lui qui donne son avis, quoi. Mais c'est quand même dommage d'en arriver là. Il faut simplifier ce cadre. Que nous n'ayons pas, nous, l'autorisation parentale pour signer, moi je suis entièrement d'accord. Mais qu'au moins le service gardien de l'enfant puisse donner son accord, sans que les parents fassent barrage. Ça irait dans le bon sens de l'intérêt de l'enfant.
Et la place de l'assistante familiale est parfois difficile à cerner. Sa parole n'est pas toujours entendue comme celle d'un travailleur social à part entière par ses collègues. Un sentiment qui peut conduire à abandonner.
Ça va ?
Oui, et vous ?
Très bien. Mieux, ça y est.
Alors, Patricia Martin, j'ai 57 ans. Et j'ai été assistante familiale pendant 22 ans. Et j'ai arrêté en décembre 2016. Voilà. J'ai arrêté, c'était un choix de ma part, parce que je pense que j'étais à saturation. Il était plus que temps, j'avais tiré un peu la corde raide. Ça faisait déjà, de mémoire, un an que je commençais à... J'irais tirer la jambe, c'est pas le mot, mais je sentais que je fatiguais. Et on a des cas, c'est vrai, de plus en plus difficiles. Et je me suis retrouvée en situation de... un peu bancal, un peu, je m'y retrouvais pas. Donc, j'ai arrêté mon métier.
Vous aviez combien d'enfants placés à ce moment-là ?
J'en avais une. Et ouais, c'était quelqu'un qui manipulait. Et je me suis fait, mais alors, avoir en beauté. Je suis quelqu'un peut-être un peu trop gentil. Voilà, donc je me suis fait piche. Ouais, voilà. Pas forcément bien soutenue à un moment donné où j'aurais dû être soutenue par l'éducateur qui m'a pas forcément soutenue en tant que collègue. Il m'a fait plus sentir que c'était lui qui dirigeait, qui était le chef, et donc moi je vais obéir. Je ne me suis pas retrouvée du tout. Quand à partir du moment dans un métier vous n'y retrouvez pas, que ça correspond plus à vos valeurs, je crois qu'à un moment donné il faut arrêter. Et puis, ben, je pense que c'est un métier où on ne peut pas faire sans y laisser des plumes. Et moi, au fur et à mesure des accueils, j'en laissais toujours un peu de moi. Et j'ai fini par, y laisser quand même beaucoup, plus qu'il n'aurait fallu. Ouais, voilà, à un moment donné où ben, je suis carrément rentrée en dépression, quoi, hein, de toute manière. Hein, voilà, où je ne supportais plus rien. On s'en rend même pas compte, hein, quand ça vous tombe dessus. Ça, vraiment, c'est... Enfin, moi, ça m'est tombé dessus, je m'en suis vraiment pas aperçue, quoi. C'est quand mon entourage m'a dit « mais tu ris plus, tu souris plus », et que je pleurais pour rien, pour un rien. Les larmes venaient toutes seules sans que j'y aie un souci, puis voilà. Et... J'ai essayé de reprendre, hein. Quand la jeune est partie, j'ai essayé de reprendre après, j'étais en arrêt 3 mois, j'ai dit « bon, allez, on va reprendre des petits relais pour essayer de... » Et comme je tremblais, j'étais toujours dans l'angoisse, j'ai dit « bon, c'est qu'il y a un problème, il faut arrêter. »
Vous regrettez pas ?
Non. Je regrette pas de l'avoir fait pendant 22 ans, mais je ne regrette pas non plus d'avoir arrêté. C'est derrière moi. J'ai mis un an quand même à me libérer de ça, parce que c'est un métier qui est tellement prenant que moi j'ai mis un an à me dire « ah ben non, ça y est, je ne fais plus partie de l'aide sociale à l'enfance, ça y est, non, il faut que j'arrête de raisonner comme ça, non, c'est... voilà. » Mais j'ai mis un an avant de me dire « ça y est, j'ai arrêté, je passe à autre chose. » L'impact, il est sur tout le monde, hein. Autant, j'irais, la famille proche, mais la famille éloignée, mais les amis aussi. C'est un choix que vous faites comme métier, alors qu'est-ce que vous pouvez l'imposer ?
Et il y a quand même des aspects très positifs dans cette profession.
Ah, très, très positifs, parce que vous voyez, j'ai un jeune qu'on a accueilli, il avait 3 ans et demi quand il arrivait chez nous. Là, bon, ça fait un moment qu'on en parlait avec lui, mais c'est vrai que les choses se sont accélérées suite au décès de son papa et de sa maman. Donc, on a lancé la procédure d'adoption. Et il est très heureux. Il a déjà décrété comment il allait s'appeler, voilà, tout en gardant son nom à lui, mais en ajoutant en plus notre nom à nous. Mais pour lui, il fait partie de la famille, il est tout comme pour mes enfants. D'ailleurs, c'est une demande de mes enfants. Oh, ça fait plusieurs années que mes enfants nous disent « mais écoutez, il faut faire quelque chose, quand vous allez, le jour où vous allez partir, après lui, il n'aura rien, il est hors de question. » Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Voilà, et tout le monde est très heureux, on fera une fête. Ça, c'est déjà, voilà, c'est une renaissance.
Donc là, Olivier, voilà. Qu'on voit dans votre jardin.
Voilà, qui est aujourd'hui en train de travailler avec mon mari dans le jardin.
Et qu'il n'y a plus 3 ans et demi.
Ah non, 28 ans, et puis c'est un amour, c'est vraiment un amour. Et il me fait rire parce que souvent, comme ça, quand il est... Des fois, il arrive et puis il se met la tête dans mon cou. Alors ça, c'est trop... c'est mignon, c'est... Ouais. On a un lien très fort avec lui.
Allez, retourne ton jardin.
Il faut dire qu'Olivier, c'est son métier, les espaces verts.
Eh bien, Olivier, j'ai 28 ans. J'habite à Saligny. Alors ici, là, on est dans ma famille d'accueil, que je considère comme mes parents maintenant. Voilà, j'y ai vécu pendant 18 ans à peu près. Enfin, toute mon enfance. Et puis, j'y vis encore maintenant. Là. J'étais là à travailler, donc... Voilà.
Vous avez l'impression de vous être un petit peu reconstruit en étant éduqué par cette famille ?
Je dirais pas reconstruit, je dirais construit, en fait, tout simplement. Hein, puisque de toute façon, j'ai connu qu'eux, donc je me suis forgé vis-à-vis d'eux. Et par rapport à mon expérience, je me rends compte aussi, finalement, d'une certaine manière, que chaque enfant, même si on a de la génétique, on apprend aussi de nos parents. Et même si c'est pas vraiment mes parents, en fait, j'ai appris d'eux, quoi. J'ai des mimiques de Jackie, j'ai des mimiques de Tata, j'ai des mimiques d'une famille qui n'est pas la mienne au niveau du sang, quoi. Donc j'ai quand même ma famille à moi à côté, finalement, mais je me reconnais plus dans ma personnalité, dans ma gestuelle, mes mimiques, ma façon d'être, dans ma famille d'accueil, puisque j'y ai vécu et j'ai grandi auprès de frères et sœurs de cette famille d'accueil-là, que par rapport à ma vraie sœur ou mon vrai frère. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça.
Et c'est important pour vous qu'ils vous adoptent ?
On va dire que c'est une forme de gratitude pour moi, quoi. Ça veut dire que effectivement, je me suis pas trompé en misant sur eux pendant toute mon enfance, quoi.
Et eux non plus.
Et eux non plus, voilà. On est d'accord. Donc, en fait, je vais pas dire que ça me fait rien, parce que c'est faux, mais au fond de moi, je pense que ça me fait, je sais pas, je trouverais ça normal, quoi.
Oui, c'est la normalité, comme c'est la normalité pour mes enfants, c'est la normalité pour nous tous, quoi. C'est dans l'ordre des choses.
Fond de la das, plus de paix que d'allégresse. Fond de la masse, fond de la das, fond de haine. Fond de la das.
En France, la protection de l'enfance est une compétence décentralisée. Chaque département peut donc y consacrer le budget qu'il souhaite et fixe le salaire et les indemnités allouées aux familles d'accueil. Ici, en Seine-Saint-Denis, le salaire est fixé au SMIC, soit environ 1200 euros pour l'accueil d'un enfant et un travail de tous les instants. Il avoisine les 3000 euros pour 3 enfants. 3, c'est le nombre maximum autorisé par l'agrément. Mais faute de place suffisante, des dérogations peuvent être accordées pour recevoir 4 enfants ou plus.
Mais des fois, on n'a pas le choix parce que l'enfant, c'est un enfant qu'ils ne peuvent pas mettre au foyer. Hein. Et alors ils sont là, oui, on préfère qu'ils soient dans une famille d'accueil.
À Villepinte, l'association pour le rayonnement des assistantes familiales du 93, l'ARAF, se réunit 2 fois par mois. Parmi ses adhérentes, Akima, Myriam et Jalila ont déjà été confrontées à ces situations. Tout comme Karima.
Je suis dedans. Je suis à 4 accueils. Oui, c'était une jeune fille où on m'a sollicité pour un mois ou deux. Et puis là, depuis 2 ans, elle est toujours à la maison.
Ça devient du pérenne.
Et vous vous sentez capable de faire ce travail-là, dans ces conditions-là ?
Oui, pour l'instant. Mais j'espère, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on n'en peut plus. Des fois, c'est trop.
Et quand on en revient à des situations de non-retour où l'enfant doit partir en catastrophe, quand il y a un travail qui est fait avec l'éducateur, etc., et un suivi réel, on arrive justement à éviter ces situations brutales pour l'enfant. Hein. Mais sinon, si on n'est pas soutenu, s'il n'y a pas d'aide, c'est ça.
On essaye de travailler avec cet enfant, on essaye de faire au mieux ce qu'on peut. Qu'on est capable de faire, et puis tant qu'on tient, puis à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop. C'est-à-dire que à un moment donné, l'accueil ne veut plus rien dire. Le placement de cet enfant n'a plus lieu d'être, il ne veut plus rien dire. Donc vaut mieux arrêter plutôt que ça dégénère, et puis vaut mieux qu'il essaye par ailleurs, voir un petit peu.
Après avec cet enfant, c'est plus un travail après qu'on fait avec cet enfant.
On n'est pas un hôtel et un restaurant. On est des assistantes familiales, des travailleurs sociaux. On est là pour aider l'enfant, l'éduquer, essayer de redresser un peu la situation. Si on arrive juste à le loger, à le nourrir, quel est l'intérêt de notre travail?
Et est-ce que vous êtes de plus en plus soumise à ça? Est-ce que de plus en plus on vous propose?
Oui, complètement. Il y a manque de place, il y a énormément de manque d'assistantes familiales aujourd'hui. Donc forcément, on est amené à accueillir en dépassement carrément.
Je voudrais soulever un autre souci, c'est 18 ans à l'ASE.
L'aide sociale à l'enfance peut prendre en charge les jeunes jusqu'à leurs 21 ans. Pour cela, à leur majorité, ils doivent conclure un contrat jeune majeur avec le service, un accompagnement financier qui peut être accepté ou non et dont la durée est souvent limitée dans le temps.
Voilà, on fait un travail avec les enfants. Par exemple, un enfant qu'on accueille depuis 7, 8 ans, 5 ans, un certain nombre d'années. On arrive à l'âge de 18 ans. Ça y est, c'est le contrat jeune majeur, ce qui est signé entre avec l'inspectrice et le jeune. Donc, ces situations-là, elles sont très précaires pour les jeunes. Parce que des fois, ils sont dans un cycle, etc., et ils sont contraints de quitter le service. Ça, c'est très rare, mais ça peut arriver. Un jeune qui se cherche, qui n'a pas encore trouvé, on peut mettre fin à son contrat parce qu'il a 18 ans, tout ça à cause de moyens financiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes? Donc, ça devient quoi? Des SDF? Tout le travail qu'on a fait en amont, parce qu'une histoire de sous, on le clochardise, ce jeune? C'est vraiment, ça, je trouve ça aberrant, que tout le travail accompli en amont ne peut pas être suivi jusqu'à 21 ans, même plus. Les jeunes qui font des longues études, on fait quoi de ces jeunes? Ils n'ont pas le droit de faire des longues études? Ils sont moins bêtes que les autres, je sais pas. Ils ont une intelligence, ils peuvent pas, parce que une histoire de financement. Et ça, je trouve ça scandaleux.
Voilà. Et puis aussi, je vois par rapport à mon amie, une assistante familiale avec qui qu'on se connaît il y a longtemps. Là, il y a un jeune qu'elle a élevé et je vois comment elle est inquiète.
En fait, il est arrivé, il avait 4 ans, donc il vient d'avoir ses 18 ans. Il a signé son contrat jeune majeur. Il est en terminale. C'est un élève brillant. C'est un élève qui veut faire de longues études et on lui a signé son contrat jeune majeur que jusqu'au mois de juin. L'éducatrice a essayé quand même de le faire au-delà. Alors elle a expliqué, l'inspectrice, que maintenant la règle c'était de faire des contrats courts et de revoir après quoi. Sauf que est-ce qu'ils ont bien pensé les choses? Parce que juin il passe son bac, les résultats c'est en juillet, qu'est-ce qu'on fait? Donc s'il l'a pas, il recommence. S'il l'a, il continue et puis il en veut. Puis c'est un enfant c'est un jeune qui ne se voit pas du tout vivre en structure collective. Il a bien expliqué, c'est bien défendu. Bon, il renouvellera au mois de mai et puis on verra ce que ça donne après.
Vous vous sentez démuni face à ce genre de situation?
Oui, parce que déjà on peut pas trop s'avancer, on peut pas parler trop d'attachement. Bon, ils sont pas dupes. Voilà, on m'a laissé entendre, est-ce que elle est prête à t'accueillir, Tata, au-delà de tes 21 ans, si tu fais des grands... Parce qu'on essaie quand même de les décourager quelque part, de leur dire, tu sais, c'est des études, parce qu'il veut faire médecine, c'est des études, t'en as pour plusieurs années. On essaie de les diriger vers des études courtes, mais il a bien tenu en disant, non, moi c'est ce que je veux faire depuis que je suis petit, et je veux tenter, je ne veux pas regretter, ni avoir des... Je veux tenter, et si je n'y arrive pas... « Vous inquiétez pas, j'ai un plan B. » Voilà. Donc oui, on est inquiet parce que qu'est-ce qui va devenir? De toute façon, je ne vais pas le lâcher, mais voilà. Ça laisse entendre quoi? Que je vais travailler bénévolement.
Selon une étude de l'INSEE fondée sur des chiffres de 2012, près d'un quart des sans-domicile fixe sont d'anciens enfants placés. Des enfants qui, une fois sortis du système, sont 35% à n'avoir aucun diplôme.
Je suis Madame Chaban, Mervat, assistante familiale. Je travaille depuis maintenant 22 ans en tant qu'assistante familiale. Je suis également présidente de l'association ARAF 93. C'est le rayonnement pour les assistantes familiales. Je pensais à arrêter ce travail. C'est comme ça que je suis devenue après militante et créer une association, et parce qu'il fallait ou soit je m'arrête complètement, je laisse cette machine folle qui voit pas, et qui réfléchit pas, ou soit je milite pour qu'on améliore les choses. Donc à ce moment-là, j'avais vraiment pensé à arrêter, mais il est clair que quand on croit en ce travail, la déception, elle est énorme. Parce que quand on sent qu'on fait partie d'une chaîne qui vous maltraite, qui maltraite l'enfant, qui maltraite ses salariés, non, j'ai pas envie de faire partie de ce système, non. Je dirais que à partir de cette question, il faut que les moyens soient mis. Qu'est-ce qu'on veut de l'aide sociale à l'enfance? Qu'est-ce qu'on veut de la protection de l'enfance? Si on veut vraiment un vrai projet éducatif, si on veut aider ces enfants, il faut mettre les moyens. Mais c'est vraiment au niveau national, et puis il faut que ça arrive au niveau des départements. Les enfants qu'on accueille, c'est aussi l'avenir de la France. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants qui sont mal lotis? Nous, à chaque fois qu'on se bat pour quelque chose, même quand on se bat pour amélioration des salaires, le but, c'est d'être dans les raisonnables et faire venir d'autres personnes, leur dire que c'est un travail où vous pouvez avoir un salaire raisonnable, où vous pouvez être considéré comme étant un vrai professionnel, comme étant vous ferez partie d'une équipe pluriprofessionnelle. Tout ça, c'est aussi pour l'intérêt de l'enfant.
En parcourant plusieurs départements, j'ai aussi pu constater la volonté d'améliorer ce système. En Haute-Garonne, par exemple, les nouvelles assistantes familiales sont en immersion pendant plusieurs jours dans une famille d'accueil avant de se voir confier un enfant. En Vendée, les professionnels ont une interlocutrice directe au département pour partager les situations de crise. Autant d'initiatives qui cherchent à soutenir et à encourager les vocations.
Déjà, hausse des dépenses d'ASE, voilà.
Et il y a encore des leviers d'amélioration. Voilà, Anoui est chargée de mission à l'ONPE, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
Il y a certainement des leviers pour que ça s'améliore, oui. Et les leviers passent vraiment par l'accompagnement des familles d'accueil, me semble-t-il. Je donne un point de vue qui est celui qu'on a défendu ici. Et aussi par la formation des professionnels qui les accompagnent. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde ait le même bagage, les mêmes concepts, les mêmes approches théoriques, puisqu'on parle quand même aussi de pratiques qui sont fondées sur des compréhensions théoriques de ce que vit l'enfant. Donc c'est très important quand même que les éducateurs, les assistants sociaux, les psychologues qui accompagnent les familles d'accueil partagent avec les familles d'accueil la même connaissance du développement de l'enfant, de ses besoins, de ses troubles de l'attachement, pour ensemble, finalement, trouver comment répondre à cet enfant au quotidien. Et ceux qui répondent au quotidien à l'enfant, c'est la famille d'accueil. Mais on peut réfléchir à plusieurs sur la manière de s'y prendre au quotidien. Et donc, je pense que même si on pense à démultiplier d'autres formes d'accueil familial que le placement familial par des assistants familiaux rémunérés en France, tiers de confiance, parrainage, bénévole, etc., je pense qu'il faudra toujours être attentif à soutenir ces familles qui accueillent des enfants qui ont des expériences de vie adverses, parce que ça ne va pas de soi de vivre avec un enfant qui n'est pas le sien et qui a eu un parcours de vie souvent difficile. Pour l'avenir, la question, c'est quelle solidarité aussi avec ces familles plus larges. Comment plus largement on peut soutenir aussi les familles qui accueillent des enfants qui ne sont pas les leurs pour leur permettre de grandir? Comment est-ce qu'on les regarde? Comment est-ce qu'on les soutient? Comment est-ce qu'on les accueille? Voilà, je pense que c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il faut se poser la question.
Bon, il y a aussi des belles réussites. On a des enfants qui sont partis, qui ont grandi, qui sont eux-mêmes parents et qui continuent à venir nous voir. Donc il faut aussi parler de ça. Voilà, il n'y a pas que des échecs, il n'y a pas que des enfants difficiles. Voilà.
De paix que d'allégresse. Fond de la masse, fond de la das, tant de haine. Fond de la das, plus de paix que d'allégresse. Fond de la das, fond de la masse, tant de haine.
Et vous écoutez Enfants de la DAS, interprété par MC Jean Gabin. Famille d'accueil, une vocation en crise, un reportage de Lola Fourmi avec Annie Brou à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
L'invité de Grand Reportage est Philippe Fabry, formateur en action sociale à l'Institut Régional du Travail Social et auteur d'une thèse sur le placement familial. Philippe Fabry, j'aimerais qu'on revienne d'abord avec vous sur la place de l'assistant familial au sein de l'aide sociale à l'enfance. On a entendu une intervenante parler de maltraitance. Beaucoup d'assistantes familiales, en tout cas, se plaignent de ne pas être suffisamment reconnues par les personnes dont elles dépendent au sein de l'ASE. Est-ce que c'est un sentiment ou vraiment une réalité ?
C'est une réalité, mais en même temps, ça évolue vite et c'est pas une réalité généralisée. Hein. Ça existe bien, mais le fait qu'on en parle et que les assistants familiaux l'expriment avec force, c'est déjà le signe d'un changement. Et c'est en train de changer. Le changement majeur est lié à la professionnalisation. Hein. En fait, maintenant, il y a un diplôme d'État d'assistant familial qui fait qu'il y a 400 heures hein, de formation avec trois grands domaines de formation. Et souvent, il y a des formations complémentaires. Et puis, il faut voir aussi que ces formations, elles ont un grand avantage. Elles mettent en réseau des assistants familiaux et assistantes familiales qui viennent de différentes institutions. Du coup, il et elle comparent les pratiques, commencent à se former aussi par ce travail en commun.
Il y a des échanges, partage d'expériences.
Oui, et puis très souvent, si le soutien du référent n'est pas assez fort, très vite, on va chercher du soutien du côté des collègues. Et cette solidarité est vraiment une spécificité maintenant très importante du métier. Et moi, dans ma recherche, c'est une recherche dans laquelle j'ai rencontré et interviewé 12 assistants familiaux qui ont parlé de 35 situations de jeunes qui ont gardé une place importante dans leur vie. Comme dans votre reportage, on en a plusieurs maintenant qui utilisent l'adoption simple des années après la fin de l'accueil, hein, 10 ans après la fin de l'accueil. Et on voit qu'effectivement, il y a une spécificité, je dirais, des enfants accueillis petits. Un enfant accueilli petit qui a grandi dans une famille d'accueil, il n'a pas la même place.
Oui, il fait partie de la famille.
Il fait partie de la famille parce que c'est son besoin, il a un besoin vital d'appartenance. S'il fait pas assez partie de la famille, c'est très mauvais pour son avenir, surtout s'il n'y a pas de projet de retour. Et en France, on est le pays le moins clair, je dirais, d'Europe sur les différents types de placements. On confond un peu tous les placements en France. Hein. Notamment, dans la plupart des pays européens, on essaie de savoir est-ce que c'est un accueil provisoire ou pas. En France, on peut gentiment placer des enfants provisoirement 18 ans.
Oui, avec des renouvellements tous les 6 mois.
Oui, c'est-à-dire les statuts de protection sont très inadaptés parce que dans le statut le plus fréquent, l'assistance éducative, normalement, c'est 2 ans maximum. Par dérogation, on devrait pouvoir renouveler et cette dérogation est devenue la norme, en fait. Hein.
Alors, c'est vrai que c'est un système très complexe, mais je reviens à ma question de départ par rapport à l'encadrement, aux équipes qui sont constituées. Oui. Elles sont un peu à part les assistants familiaux, puisqu'il y a des hommes aussi.
On peut pas généraliser parce que une spécificité française, c'est que même quand vous passez des années et des années à travailler en prise directe avec des terrains variés, les terrains évoluent vite. Et d'un département à l'autre, les politiques sont très différentes. D'une institution à l'autre, elles sont très différentes. Dans la même association, parfois, c'est très très différent. Ce qui fait que vous ne pouvez guère prédire la place de l'assistant familial dans son service. C'est incroyablement variable. Et c'est pas le fait qu'elle soit à l'ASE ou dans une association qui va beaucoup vous éclairer, parce que à l'ASE, il y a des équipes qui fonctionnent admirablement, puis d'autres qui dysfonctionnent. Mais c'est pareil dans le milieu associatif.
Parce qu'il y en a, c'est assez surprenant. Elles disent, moi je suis au quotidien au contact avec cet enfant, donc je le connais quand même particulièrement bien. Et les décisions, elles sont prises sans même que je sois consultée.
Oui. Ça évolue. Dans votre exemple de Haute-Garonne, on voit qu'on y va, ça évolue. Ça a besoin d'évoluer. Il y a des résistances, hein, mais il y a aussi des avancées. Je dirais que ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que c'est un métier particulier, assistant familial, puisque ça engage la famille d'accueil.
Et cette famille d'accueil,
les conjoints, les enfants, les proches, les amis, les grands-parents, ça on l'oublie trop souvent.
Et dont l'équilibre peut être bousculé.
Dont l'équilibre peut être très affecté par un enfant qui a des troubles très envahissants, par exemple. Par exemple, il y a des enfants de famille d'accueil qui disent « Mais moi, cet enfant qui envahit mes parents, qui a une demande d'exclusivité,
il
prend toute la place. » Et les familles doivent trouver un équilibre entre l'attachement à cet enfant et bizarrement, les enfants qui ont des gros troubles produisent un attachement très fort. C'est pas intuitif, mais c'est vrai. Et parfois, parmi les enfants accueillis, qui sont plus tard adoptés, il y a une famille d'accueil qui m'a dit « Moi, j'ai jamais eu autant de mal avec un enfant. Cet enfant-là m'a donné plus de mal que mes 3 enfants réunis et les autres accueillis. » Et 10 ans après sa majorité, cet enfant est en train d'être adopté. Hein. Bon, c'est un paradoxe, mais cet enfant, il produit un engagement, l'envie qu'il aille mieux. Et ce souci de l'enfant, c'est au cœur du métier.
On mesure, en entendant ces femmes, le degré d'implication. Oui, hein, c'est vraiment très, très fort.
Oui, et il faut faire de l'immersion dans une famille d'accueil pour s'en rendre compte. Et c'est pas facile, même quand on est travailleur social en placement familial, comme je l'ai été, parce que on a aussi le souci de respecter la vie privée de cette famille d'accueil. C'est-à-dire, on va pas aller trop s'occuper de la vie des enfants de la famille d'accueil, par exemple, vous voyez. Et en même temps, on sait que cette vie est affectée par l'accueil. Par exemple, dans les situations qui mènent à l'adoption, presque toujours, j'ai vu que ça s'est fait à l'initiative des enfants avec les parents. Les
comme dans le cas qu'on entendait dans le reportage
exactement.
De Lola.
Il y a un sentiment de fraternité qui s'est créé, qui est très fort, hein, des deux côtés. Et ça ne débouche pas toujours sur l'adoption, parce qu'il y a des formes plus traditionnelles, on va dire. Une de vos assistantes familiales dit « adoption de cœur, je suis une mère de cœur ». Où les gens utilisent des traditions du parrainage, être témoin de baptême, enfin, nouer des liens un peu comme si c'était devenu tata comme ma vraie tante ou tonton, et il y a des liens un peu oncle et tante.
Olivier appelle effectivement Patricia tata, oui. On l'entendait. Alors, on voit la complexité de ce positionnement qui est demandé aux familles d'accueil, dont le titre officiel est assistant familial, hein, justement, c'est pas le vrai mot, famille d'accueil, puisque en fait, effectivement, il y a ce rôle de parent de substitution, mais on leur demande d'aimer l'enfant, mais pas trop, lui est censé s'attacher, mais pas trop, c'est une mission totalement impossible quand on regarde.
Oui, alors c'est là qu'il faudrait préciser qu'il y a différents types d'accueil. On peut dire qu'il y a trois types d'accueil que les professionnels, les juges, la ZEU feraient bien de mieux différencier. Il y a les accueils dans lesquels l'accueil est provisoire parce que les parents sont là, ils sont vraiment impliqués dans l'éducation de leurs enfants.
Et il y a un coup dur, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné...
Et l'accueil les aide, et puis le travail, c'est le retour. Et ce retour, personne ne doute qu'il se fera, même s'il est reporté pour X raisons, mais les parents sont impliqués dans le quotidien de leur enfant. Dans d'autres cas, deuxième type d'accueil, on ne sait pas exactement où on en est. Dans la plupart des pays, maintenant occidentaux, on se dit si l'enfant est petit, il ne faut pas qu'on reste des années à ne pas savoir où est la place de l'enfant. Il faut faire un projet de vie. Et on va définir, est-ce qu'on va vers un retour en famille ou est-ce que dans le rapport au temps de l'enfant, on n'y va pas. À ce moment-là, il faut arrêter de placer l'enfant, il faut le confier.
Mais c'est un petit peu ce qu'il y a dans le projet pour l'enfant, non ? C'est cette réflexion-là, justement, de qu'est-ce qu'on fait ?
Le projet de l'enfant, il est ambigu.
Qui est dans la loi de 2016.
Non, il ne date pas de 2016, justement. C'est ça qui est ambigu. Il date de la loi de 2007.
Oui, mais alors, on y est revenu en 2016.
Alors, pourquoi on y est revenu ? La loi de 2007, elle est franchement du côté des droits des parents. Et le PPE est vraiment un outil au départ, en 2007, pour vérifier qu'on respecte bien les droits des parents, leur autorité parentale, etc. 2007, on le réoriente du côté des besoins de l'enfant. Mais ça, c'est un des problèmes majeurs de la protection de l'enfance. Elle est tiraillée entre protection de l'enfance et soutien de la parentalité. Et on a du mal à pouvoir penser les situations dans lesquelles il y a une forte contradiction entre les deux. Dans beaucoup de pays, on y a pensé. Je vous donne un exemple. Si vous allez au Québec, si on veut savoir s'il y a un projet de retour, on a 5 étapes à respecter. Première étape, est-ce que les parents viennent régulièrement ? S'ils viennent pas régulièrement, on va pas rester dans l'idée d'un retour. Moi, dans mes recherches, je parle de l'idéologie du retour. C'est-à-dire, on fait pas de projet précis parce que implicitement, le seul projet valable, c'est un retour de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand le retour est pas possible? Et c'est là que notre système n'est pas bon. Il fonctionne bien, faut le dire, parce que c'est invisible. Il fonctionne bien dans la majorité des situations quand les parents sont là. Il fonctionne moins bien quand les parents sont pas présents parce que tout est pensé autour des parents.
Ça fonctionne bien aussi quand les parents ont compris l'intérêt de ce placement.
Oui.
Parce que quand ils le refusent, à ce moment-là, ils vont jouer sur leur autorité parentale et ça va rendre des situations extrêmement complexes. Lola ?
Oui, c'est précisément ce que racontait Patricia avec Olivier. C'est qu'elle disait, en fait, si ça a fonctionné, si aujourd'hui c'est un jeune homme épanoui et qu'on a pu l'adopter, c'est aussi parce qu'il avait des parents aidants, ce qu'elle appelait. C'est-à-dire qu'ils étaient pro-placement. Ils expliquaient, nous, on ne peut pas s'occuper de toi, mais la famille dans laquelle tu es, elle peut le faire, elle t'accompagnera. Et elle disait que c'est très aidant finalement, oui, et que c'était essentiel.
Et pour moi, dans le troisième type de placement dont je parlais, c'est des enfants qui peuvent être placés très durablement parce que les parents, par exemple, ont des troubles psychiques qui permettent pas qu'il y ait un retour. Ça les empêche pas souvent de confier leur enfant. Moi, j'ai vu une femme expliquer à son enfant, tu vois, je viens avec l'infirmière psychiatrique, si tu comprends pas, elle peut t'expliquer pourquoi je peux pas, moi, t'éduquer, demande-lui. Mais en attendant, t'obéis à mamie, parce que c'est elle qui t'élève. Et elle confiait à son enfant, mais en échange, mamie, elle défendait la place de maman. Donc, on voit que il y a, chez les familles d'accueil expérimentées, un art de soutenir les parents à distance, de défendre leur place, Et les parents respectés arrivent à confier leur enfant. Quand on est dans ce type-là, ça fonctionne bien. Il n'y a pas ces conflits de loyauté dont on parle. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup moins. En France, on a plus de conflits de loyauté qu'ailleurs parce que on est dans, culturellement, dans un système qui est référé à l'exclusivité du lien de filiation. Un enfant ne doit avoir qu'un père et qu'une mère. Et donc, ce qu'on donne à la famille d'accueil, forcément, on le vole aux parents. Hein, voilà. Et ce fantasme de vol, en France, il est très, très répandu. Vous allez en Belgique, on a fait une loi en 2017 dans laquelle plus l'accueil dure, plus on transfère d'autorité parentale à la famille d'accueil. Et évidemment, les actes du quotidien sont transférés à la famille d'accueil, mais qui sont censés représenter les parents. Donc les parents ne sont pas oubliés, on les informe. Simplement, on ne fait pas comme si les familles d'accueil n'étaient pas parents. Il y a un déni du rôle parental, notamment des pères d'accueil, qui est terrible. Parce que vous vivez dans une famille d'accueil, vous voyez combien les repas, par exemple, c'est des temps éducatifs importants, vous voyez combien toute la structure familiale est une structure éducative, mais c'est des super parents. Et souvent, il y a un déni de ce rôle parental parce que, il faut pas le dire, on volerait les parents. Il faut sortir de ce fantasme-là.
Et assistant familial, c'est vraiment pas un métier comme un autre puisqu'il faut une hyper disponibilité, de jour comme de nuit. Les vacances sont très limitées d'ailleurs, hein, puisque parfois, les vacances sont programmées puis finalement sont annulées.
Oui, c'est d'ailleurs un problème pour les enfants. Hein. Les accueils de relais se sont beaucoup développés avec la professionnalisation. On peut le comprendre, hein, ça va avec la professionnalisation. Pour certains enfants, ça se passe bien parce que les relais sont super stables. Donc, ils ont une famille d'accueil amie, ils y ont leur place. Comme dans l'exemple de votre présidente, là, on voit qu'elle accueille depuis plus de 10 ans un jeune. Bon, les relais,
donc là,
c'est
y a
presque
un réseau
une famille élargie, quoi.
Voilà.
C'est très positif pour l'enfant. Moi, j'ai un jeune qui m'a raconté, ben, moi, mon père déconnait, mon beau-père déconnait. Dans ma famille d'accueil, le père d'accueil était très, très âgé. Ah oui, mais dans la famille d'accueil relais, il y avait un père d'accueil jeune qui m'emmenait faire du sport. Il a compté dans ma vie. Hein, bon. Mais les accueils relais, ça peut être aussi pour l'enfant être trop ballotté, quoi. Surtout les petits. Ils sont ballottés déjà parce qu'ils savent pas, est-ce que je vais rester dans ma famille d'accueil ou pas rester. Personne peut leur dire. C'est là, à un moment donné, qui, la question du chez-soi est capitale. Il faudrait qu'on défende beaucoup mieux le chez-soi. Dans mes travaux, ce que je dis, c'est que on devrait pouvoir mettre l'accent sur les étapes dans la vie d'un enfant. Si tu déménages, ça veut dire changer de chez soi, ça peut pas se faire sans prendre du temps et qu'on t'en parle et qu'on te demande ton avis, même petit. Hein. Et si on fait des étapes, j'ai travaillé dans un placement familial où on faisait ça, c'est-à-dire on faisait des retours vraiment par étapes qui allaient jusqu'à, même quand l'enfant rentre dans sa famille, qu'il puisse revenir en week-end dans sa famille d'accueil. Et à un moment donné, l'enfant montre, c'est bon, c'est fait. Mais ça demande beaucoup d'attention aux besoins de l'enfant.
Alors, je reviens sur les difficultés de ce travail, parce qu'il y a une lassitude, parfois, qui est aussi liée au cadre, au poids administratif, par exemple, oui. Puisque, par exemple, la moindre dépense doit être consignée, oui. On fait un déplacement, il faut noter à quelle heure on est parti, combien de kilomètres on a fait, oui. ça on ne le mesure pas, on ne l'entend pas forcément.
Non, mais c'est vrai aussi des maisons d'enfants, il y a une bureaucratisation du travail social qui est une catastrophe. Hein. Et à un moment donné, il faudrait opposer à cette bureaucratisation le droit de l'enfant à mener une vie ordinaire. C'est un droit à défendre activement parce qu'il est malmené dans beaucoup de situations. Quand des départements inventent des listes d'actes non usuels qui sont ridicules, vous allez en Suisse, en Belgique, on vous cite 5 actes non usuels, hein, 5 ou 6. Choix d'une religion, changer de pays, enfin des choses qui engagent la vie de l'enfant. En France, quitter l'école plus tôt parce qu'il n'y a pas cours, ah, acte non usuel, il faut l'accord des parents. Enfin,
Donc il faudrait un peu plus de simplicité, de confiance.
Alors, il faudrait déjà sortir de cette culture administrative dans laquelle le juge confie à l'ASE du haut, qui confie à l'ASE du bas, qui confie un service souvent associatif, qui confie une famille d'accueil, et toute cette chaîne-là, ça crée, en termes d'écologie de la décision, du bazar. Et donc, il faudrait sortir de ça et être dans un travail plus collaboratif où c'est dans des réunions que se prennent les décisions. On a l'exemple, par exemple, dans votre témoignage, de cette personne qui dit « Ah bah tiens, autour du PPE, on va se réunir ». Ça, c'est un progrès important. Hein. Mais cette culture collaborative, ça demande clairement de ne pas travailler successivement les uns après les autres à coups d'écrit, mais de se réunir autour de la situation de l'enfant.
Juste un tout petit mot sur les contrôles. Est-ce que vous estimez qu'ils sont satisfaisants?
Bon, c'est difficile d'y répondre parce que d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, d'une association à l'autre...
C'est encore une fois, on ne peut pas généraliser.
C'est très variable.
Bon, alors on y reviendra une autre fois. Merci Fabrice. Philippe Fabry, pardon. Famille d'accueil, une vocation en crise. Le grand reportage de cette semaine était signé Lola Fourmi, réalisation Annie Brou avec Alexandre Dang à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr. C'était une rediffusion du 25 janvier 2019.